Mes bien chers amis, si vous suivez tant soit peu les nouvelles courantes dans les journaux, à la radio ou à la TV, vous voyez rarement passer une semaine sans qu'il soit fait mention d'une grève ou d'une menace de grève quelque part, jusque dans les services publics, depuis qu'elles bénéficient de la même légalité que celles qui se produisent dans des entreprises privées. Au moment où je commence la préparation de cet article, je jette un coup d'œil sur le quotidien du jour, 15 décembre. Je vois justement en première page, les contrôleurs de la circulation aérienne ont décidé hier soir, par un vote de 578 voix contre 33, d'entrer en grève mardi prochain. Cette grève, légale au terme de la législation actuelle, paralyserait tous les services aériens du Canada. Pour empêcher cette grave situation, il faut, à moins d'un accord de toute dernière heure, une loi d'urgence votée par le Parlement d'Ottawa. En page 3 du même numéro, du même journal, je lis « Les 9000 professeurs de la Commission des écoles catholiques de Montréal décideront lundi s'ils feront la grève le 13 janvier. 212 000 élèves seraient touchés par cet arrêt de travail de la part du personnel enseignant. » Dans la colonne voisine, je lis « Les employés manuels de la ville de Montréal préparent leur comité de grève. Cette grève, qui peut légalement commencer le ou vers le 1er février, semble inévitable, dit le président du syndicat. 5500 travailleurs manuels sont en cause. Par ailleurs, 4 autres syndicats de fonctionnaires municipaux, au total 17 000 personnes, policiers, pompiers, contremaîtres et collets blancs, ont refusé en bloc vendredi dernier les dernières offres de la ville. Voilà toujours bien 3 grèves menaçantes qui ne devraient pas être légalisées à cause des effets désastreux qu'en subirait le public. Mais le public, quel syndicat s'en préoccupe? Les grévistes piqueteurs aux portes des hôpitaux en juin dernier se souciaient-ils le moins du monde du sort des malades qu'ils avaient abandonnés? Une grève survient à la suite de négociations qui n'ont pu réussir un accord entre les deux parties en présence, le côté des employés et celui de l'employeur. Le premier dit « On nous offre trop peu, c'est inacceptable ». L'autre dit « Le syndicat exige trop, au-delà de nos moyens de payer, c'est inacceptable ». Alors, c'est la guerre, car une grève, c'est cela, une guerre intestine dans une entreprise. Intestine, mais dont les victimes se trouvent aussi en dehors des deux parties en cause. Qui est assis autour de la table de négociation quand il s'agit, par exemple, de discuter d'une hausse de salaire? Il y a là les représentants de l'employeur et les représentants des employés. Mais seront-ils les seuls affectés par la hausse consentie? Toute hausse de salaire est nécessairement une hausse du coût de revient, donc une hausse de prix à payer par les consommateurs des produits ou des services fournis par l'entreprise ou le corps public concerné. C'est dire que la hausse consentie se fera sur le dos des consommateurs. Or, les consommateurs n'ont point de représentants attitrés à la table de négociation. Employeurs et employés sont certainement, eux aussi, des consommateurs. C'est même d'une augmentation de pouvoir d'achat, donc d'une augmentation de leur pouvoir de consommation, que réclament les employés quand ils veulent une hausse de salaire. Cela n'a rien à voir avec les conditions physiques de leur emploi. Ce n'est plus leur vie aux heures d'emploi, mais leur vie à la maison, leur vie comme consommateur qui est affectée par le salaire. Mais les syndiqués en instance de plus gros salaire représentent seulement un groupe de consommateurs, le leur, qui veut améliorer son sort sans se soucier de la brèche que cela ferait dans le sort des autres consommateurs. Si la grève est une guerre civile dans l'entreprise, Elle produit aussi les effets d'une guerre civile entre consommateurs. Le salaire de base des employés manuels de la ville de Montréal, par exemple, est actuellement de 2,5 $ de l'heure. La ville veut bien la hausser de 30 sous, mais le syndicat réclame une hausse de 1,25 $, ce qui porterait le salaire de base à 3,30 $ de l'heure. Si la ville consentait la hausse demandée par le syndicat, 1,25 $ de l'heure, cela ferait pour chaque employé une hausse de 50 $ par semaine de 40 heures, de 2,600 $ par année. Et pour les 5,500 employés manuels, cela augmenterait les dépenses de la ville de 14,575 $. Et rien que pour les hausses de salaire de base. Or, où la ville prendrait-elle ces 14,5 $, sinon dans les poches des contribuables? Cela, le syndicat ne peut pas l'ignorer, mais il a tout l'air de s'en foutre éperdument. Mais qu'arrive-t-il à la suite de hausses de salaire qui font monter les prix à payer par les consommateurs et les taxes à payer par les contribuables? Il arrive que, devant cette nouvelle hausse du coût de la vie, les employés d'autres industries et les fonctionnaires d'autres secteurs publics réclament à leur tour des hausses qui, elles aussi, iront s'ajouter au coût de la vie. Spirale ascendante, salaire, prix, pour mener où? À l'instabilité, au mécontentement, au chaos, à des multiplications d'interventions de la part des gouvernements, à l'étatisme, avec la dictature communiste au bout. Mais comment hausser des revenus insuffisants devant la cherté de la vie sans augmenter davantage le coût de la vie? C'est impossible dans un système qui ne distribue d'argent qu'en fonction de l'emploi, alors que tout argent ainsi distribué par l'emploi entre dans les prix. Et cette situation ne peut qu'empirer à mesure que la production remplace les hommes par des machines et à mesure que l'automation croissante remplace les surveillants humains de ces machines par des surveillants électroniques. Le système actuel d'argent, déjà désuet, faux, frauduleux depuis longtemps, le devient de plus en plus. Il ne sait ni s'assouplir ni servir. Il est devenu un instrument de domination et de conditionnement de la vie des hommes par ceux qui le contrôlent, par leurs favoris de la finance et de la grosse industrie, par leurs valets de la politique, des syndicats, des grands moyens d'information et des hautes chaires d'enseignement. Avec les immenses possibilités physiques de la production moderne, les difficultés qui empêchent une vie économique saine et satisfaisante pour tous seraient facilement résolues par l'adoption d'un système financier approprié. Un système qui ferait en tout temps la finance refléter exactement les réalités de l'économie tant dans la production que dans la distribution. Un système qui saurait distribuer du pouvoir d'achat suffisant sans hausser les prix d'un seul sou. Un système qui pourrait abaisser les prix à payer par les acheteurs sans léser les vendeurs d'un seul sou. Un système qui saurait reconnaître que tout être humain tient, de sa nature même, le droit fondamental à l'usage des biens matériels répondant à ses besoins vitaux. Un système qui considérerait à juste titre tous les citoyens comme copropriétaires des richesses naturelles du pays créées par Dieu, comme co-héritiers aussi des inventions et des progrès dans les procédés de production développés, grossis d'une génération à l'autre et transmis jusqu'à nous, richesses et héritages constituant le plus gros facteur de la capacité moderne de production et devant procurer à tous les copropriétaires et co-héritiers un dividende sur la production réalisée. Ce sont là les caractères libérateurs et vraiment sociaux d'un système financier qui appliquerait les propositions énoncées par Douglas voici tout près d'un demi-siècle. système connu sous le nom de crédit social, mais sans aucun rapport avec un parti politique qui s'affuble de ce nom tout en poursuivant d'autres fins. L'adoption d'un tel système de finances ferait tomber d'un coup les problèmes d'argent qui opposent patrons et employés. Les ouvriers n'auraient plus à chercher des hausses de salaire pour rejoindre le niveau des prix. Cela serait fait, d'une part, par le dividende à tous, et d'autre part, par une escompte générale qui abaisserait les prix pour les acheteurs, tout en étant compensé au vendeur pour lui permettre de toucher le prix comptable auquel il a droit. Le salaire resterait la récompense de l'effort, mais quand le flot de production continue, augmente même, tout en diminuant les heures d'ouvrage ou le nombre des employés, c'est évidemment le fruit du progrès et non plus du labeur fourni. C'est le fruit d'un capital communautaire qui doit se traduire par une hausse des dividendes à tous et non pas par une hausse accordée aux seuls producteurs. D'ailleurs, l'établissement d'un système financier créditiste permettrait la plus belle, la plus complète des promotions ouvrières. En effet, de même que l'esclavage d'autrefois a disparu pour faire place au servage, et que le servage disparut à son tour pour faire place au salariat, de même aussi, le salariat pourrait, graduellement et assez rapidement, disparaître lui aussi pour ne laisser que l'associationnisme des individus compétents, capables de fournir de bons produits, de prendre des responsabilités et unissant librement leurs activités pour répondre aux besoins de la population. Cela n'est pas possible sous un système où ce sont les hommes de piastre qui dominent et qui embauchent les compétences à leur service pour permettre d'autres piastres. Mais sous un système de créditiste, cela devient facile. Comment donc se fait-il que l'on trouve encore des personnes et des groupes qui repoussent le crédit social, préférant essayer de tirer quelque chose du système actuel en pilant sur les pieds des autres? Vu individuellement, un grand nombre, et nous croyons même la majorité des ouvriers, ne souhaiteraient rien mieux que voir appliquer les propositions financières préconisées par Douglas. Mais, dans les assemblées syndicales, le sujet reste banni, à moins que ce soit pour le dénigrer. C'est que les chefs sont consciemment ou sottement des socialistes. Or, l'application du crédit social couperait définitivement toute voie d'accès au socialisme. Puis, à quoi pourrait encore servir leur syndicat? Que deviendraient les chefs avec leur grosse rémunération dans un monde où tous les citoyens jouiraient du statut de capitaliste, où les dividendes prendraient de plus en plus le pas sur les salaires dans la constitution du pouvoir d'achat, dans un monde où le salariat lui-même serait en passe de devenir, comme l'esclavage de jadis, un simple sujet d'histoire. Il est temps que les syndiqués se rendent compte qu'ils sont trahis au lieu d'être servis par des chefs socialistes et qu'ils mettent ces dirigeants en demeure de changer leur orientation.